Dans un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 15 janvier 2024 et voici donc la chronique du groupe Fred Zeller que vous présente Jean-Louis. Je vais tout d'abord dans cette chronique donner un rappel des initiatives qui se sont déroulées ce week-end à Périgueux, à savoir samedi 13 au matin devant le palais de justice de Périgueux, un rassemblement suivi d'une manifestation de soutien au peuple palestinien, une manifestation exigeant, comme l'indiquait la banderole de tête, cessez-le-feu immédiat. Ça n'a que trop duré, des dizaines de milliers de victimes, civiles pour la plupart, et je vais vous proposer tout à l'heure la lecture d'un petit article de Pierre Conessa, qui est un spécialiste des questions sécuritaires au ministère français de la Défense, qui est tout à fait intéressant. Dimanche matin, s'est tenu, et là cette fois c'était devant l'Arbre de la Liberté, un rassemblement pour exiger le retrait de la loi immigration, la loi Darmanin. Alors je l'appelle pas loi Darmanin parce qu'on ne sait plus de laquelle loi on parle, il y en a plusieurs, toutes aussi horribles les unes que les autres. Mais là c'était donc la loi qui a été adoptée très récemment au terme d'un processus parlementaire dont chacun se souvient, puisqu'on a vu quand même ce moment assez extraordinaire où le président de la République a appelé à voter ses députés, les députés de son groupe, pour une loi dans laquelle un certain nombre de dispositions ne lui convenaient pas, et appelle à voter au motif que le Conseil constitutionnel allait bien supprimer, retoquer les articles qui posaient problème. C'est quand même assez extraordinaire. Au final, on a une loi qui est une loi qui reprend intégralement le positionnement du Rassemblement national. C'est une loi honteuse. Et la question des possibles retoquages par le Conseil constitutionnel est très secondaire, parce que quand bien même les articles qui sont soumis à l'avis du Conseil constitutionnel seraient retoqués, l'esprit de la loi ne changerait pas. Ça reste une loi entièrement dirigée contre les immigrés et qui fait de chaque immigré un suspect et quelqu'un qu'il faut repousser. Alors, sur le premier sujet, la question donc du drame qui se déroule actuellement en Palestine, je vous livre cette réflexion donc de Pierre Conessa, expert des questions sécuritaires au ministère français de la Défense. Et le titre, c'est « Israël pratique un terrorisme d'État ». L'unanimisme qui caractérise la scène politico-médiatique européenne, notamment française, ne reflète pas du tout la réalité des opinions en Occident. La mainmise du sionisme international sur les médias et la classe politique européenne agit comme un écran de fumée, empêchant une expression différente de celle que développe la doxa dominante dans cette partie du monde. Israël ne se défend pas, mais commet des crimes de guerre à Gaza. Aucune circonstance ou un quelconque autre méfait subi par les Palestiniens ne saurait masquer la vérité qui saute aux yeux. Pierre Conessa, qui a répondu positivement donc à notre demande d'entretien, puisque là, c'est la présentation de l'interview par le journal qui le propose. Donc, Pierre Conessa, qui a répondu positivement à notre demande d'entretien, évoque les épisodes de harcèlement de Palestiniens par des États arabes. Des faits historiques qu'on ne peut nier, mais dans le même temps, d'autres États arabes, à l'image de l'Algérie, ont apporté un soutien sans faille à la cause palestinienne. Cela aussi est un fait de l'histoire d'un peuple qui vit, ces trois derniers mois, une entreprise d'extermination systématique de la part de l'entité sioniste, aidée dans sa basse manœuvre par un Occident borgne qui ne veut voir que ce qu'il veut. Pierre Conessa apporte dans cet entretien des éclairages nécessaires et dévoile la machinerie occidentalo-sioniste. Il éclaire aussi la vision, sans concession, d'un intellectuel occidental qui souffre d'une sous-visibilité médiatique en raison de ses positions courageuses sur l'agression qui a cours en Palestine. On retiendra néanmoins quelques raccourcis sur certaines intentions américaines décrites comme plus humaines que celles de pays arabes. Notons que Pierre Conessa a été membre du comité de réflexion stratégique du ministère français de la Défense. La fabrication de l'ennemi, vendre la guerre et le complexe militaro-intellectuel. Dans cette interview, Pierre Conessa emboîte le pas à Alain Grech qui a déclaré « Si le Hamas est une organisation terroriste, alors Israël est un État terroriste ». Le décor est placé, interview. Donc, question posée à Pierre Conessa. Suite à l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, Israël n'est-il pas devenu le bourreau des Palestiniens après avoir revendiqué le statut de victime ? Réponse de Pierre Conessa. Il faut rappeler que les malheureux Palestiniens ont été massacrés à peu près par tout le monde lors de Septembre Noir en 1770 et provoqué par la dynastie jordanienne. Les estimations varient de 3500 morts, ce sont les chiffres jordaniens, et 10 000, chiffres palestiniens, et près de 10 000 blessés. L'extermination des camps de Sabra et Shatila après différents combats plus ou moins meurtriers, comme celui de la Quarantine au Liban, fut le fait des phalangistes. Quant aux pays du Golfe, qui ont l'argent et l'espace, ils ont soigneusement refusé d'accueillir les Palestiniens. Petit rappel historique. Après les accords de paix entre Israël et l'Égypte, des centaines d'étudiants palestiniens sont expulsés des universités égyptiennes de 1991 à 2012. La population palestinienne du Koweït passe de 400 000 à 80 000 personnes. En 1995, le général Kadhafi expulse 30 000 Palestiniens, confisque leurs maisons et les fait renvoyer de leurs emplois, incite les autres pays arabes à faire de même. En 1995, au Liban, une loi interdit aux Palestiniens d'immigrer. En 2005, après la chute de Saddam, des Palestiniens d'Irak sont pris en otage et torturés par des groupes armés et environ 15 000 sont expulsés. En 2009, Amnesty critique le sort déplorable des Palestiniens bloqués à la frontière irako-syrienne. En 2007, l'armée libanaise détruit le camp Nahr el-Bared et expulse les 31 000 résidents palestiniens. Tous ces chiffres pour dire que personne ne veut des Palestiniens et souhaiterait que le problème soit géré par Israël. La communauté internationale aussi et son silence sur les massacres à Gaza, véritable ghetto à ciel ouvert, et la recolonisation de la Cisjordanie par des colons religieux juifs protégés par Tsahal, c'est-à-dire l'armée sioniste, est une ignominie analogue à ce qu'ont fait les Russes en Tchétchénie. Mais on constate que tous les massacres ne sont pas traités de la même manière. Donc, reprise des questions par Lincoln Hoover, Israël fait fi du droit international et du droit des Palestiniens à la vie dans un contexte de grande vassalité de l'Occident à son égard. Qu'en pensez-vous ? Pierre Conessa répond : c'est tout à fait exact. Mais le droit international n'existe pas pour les puissants. Regardez les postures de vierge effarouchée des intellectuels qui veulent faire passer Poutine devant la CPI pour l'invasion de l'Ukraine. Et quand on demande où en est le procès contre Bush, responsable de 10 000 morts dans l'invasion de l'Irak, justifié par un mensonge de Colin Powell à la tribune de l'ONU, on détourne le regard. Même dans son discours, sur l'état de l'Union de janvier 2002, dans lequel il annonce sa guerre globale contre le terrorisme, il désigne l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, alors qu'il n'y avait ni Iraniens, ni Irakiens, ni Nord-Coréens dans les avions, mais par contre 15 Saoudiens sur 19 kamikazes. Cela dit, les USA ont accueilli plus de réfugiés palestiniens enregistrés par l'UNRWA entre 150 000 et 200 000 personnes d'origine palestinienne aux États-Unis, contre 50 000 à 80 000 en Égypte. Ce sont des estimations qui datent de 2000. Toutes les organisations onusiennes, reprend donc l'intervieweur, toutes les organisations onusiennes des droits de l'homme, de la santé, de la Croix-Rouge, de la rue arabe et occidentale, dénoncent l'entreprise génocidaire du gouvernement israélien. Comment expliquez-vous le soutien qu'apportent les puissances occidentales, à leur tête les USA, à Israël pour son entreprise criminelle ? Pour les chiffres, je resterai prudent car personne ne sait combien il y a de cadavres sous les décombres. Mais cela ne change pas que la répression israélienne aura fait énormément de victimes à Gaza. Je ne connais pas de bombes lancées d'avion qui fassent la différence entre un combattant, une femme ou un enfant. C'est donc bien un massacre. Je suis plus critique sur la médiatisation des échanges otages contre prisonniers. Israël a posé comme condition que les prisonniers palestiniens libérés, dans la proportion de 4 prisonniers pour un otage, n'aient pas de sang sur les mains. Très bien. Mais alors, qu'avait-il donc fait ? Lancer des pierres sur des soldats ? Fait du trafic ? Le chiffre de 4 000 prisonniers palestiniens en détention en Israël, sans procès ni jugement, est-il exact ? Cela les rapproche de la condition juridique des otages. Nouvelle question. Après l'attaque terroriste en Iran revendiquée par Daesh et l'attaque du bureau du Hamas au Liban, d'aucuns estiment que les États-Unis, Israël et Daesh mènent le même combat. Comment voyez-vous l'issue de cette guerre ? Et réponse de Pierre Conessa. Je suis depuis quelques années convaincu que la guerre sunnite-chiite est la véritable dynamique de guerre dans le monde musulman. Au Pakistan, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Liban, à Bahreïn, au Nigeria, en Iran. Les attentats islamistes tuent 90% de musulmans. L'attentat récent en Iran, revendiqué par Daesh, n'en est qu'une illustration qui n'a pas lieu d'étonner à mon sens. La rivalité entre sunnites et chiites dans la dénonciation du massacre de Gaza montre que le sort des Palestiniens n'est que secondaire dans le cas de cette rivalité. Conclure que Daesh et Israël mènent le même combat est circonstanciel, pas structurel. Ne sommes-nous pas en train d'assister à un sabordage de la solution de deux États par les puissances occidentales, même si les pays arabes, la Russie et la Chine, soutiennent encore cette solution ? Bien sûr, les divers ministres israéliens qui parlent d'utiliser la bombe, les colons qui parlent de revenir à Gaza, ceux qui réoccupent la Cisjordanie protégée par l'armée israélienne, et Netanyahou qui annonce que la guerre ira jusqu'au bout, ou si utile, sont tous des radicaux religieux comme le Hamas. Il faut rappeler que Gaza, 30 000 km² où vivent plus de 2 millions d'habitants. Pour donner une illustration de nos auditrices et auditeurs, si on regarde en Dordogne, ça fait un rectangle de 5 km de large qui va de Périgueux à Mussidan. Donc, en gros, le rapport de population est de 266. Donc, il faut rappeler que Gaza, 30 000 km² où vivent plus de 2 millions d'habitants, a la dimension du territoire de Belfort, c'est une autre comparaison, 50 000 personnes. Et quand Israël annonce avoir mené plus de 800 raids aériens sur Gaza en 48 heures, il faut se demander qu'est-ce qui resterait debout à Belfort après que cette quantité de bombardements ait eu lieu. Gaza vit depuis des années sur perfusion humanitaire internationale et Israël refuse le cessez-le-feu humanitaire. On en arrive à l'avant-dernière question de cette interview. Si le Hamas est une organisation terroriste, alors Israël est un État terroriste, écrit dans une tribune Alain Grèche, un des spécialistes de la question palestinienne et ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique. Quel commentaire faites-vous ? Alain Grèche a parfaitement raison de mettre les mêmes mots sur les mêmes comportements et les mêmes faits. Réponse très directe. Et enfin, indirectement, Israël et son allié américain ne sont-ils pas en train de pousser l'Iran et son axe de résistance à rentrer dans une guerre frontale ? Et la réponse de Pierre Conessa est la suivante. Si c'est le cas, c'est un grand risque que toutes les opinions occidentales ont perçu. Pour la première fois, Israël ne jouit pas d'un soutien total et indéfectible. Les manifestations critiques ont été nombreuses, en particulier dans les universités américaines, chez les intellectuels français, etc. etc. Et l'accusation sempiternelle d'antisémitisme pour disqualifier toute critique ne marche plus. Fin de l'interview. Quelques commentaires, et en particulier par rapport donc, à ces derniers mots de Pierre Conessa. Il faut effectivement souligner le nombre et l'importance des manifestations exigeant le cessez-le-feu immédiat à travers le monde. Aux États-Unis même, ce sont des manifestations, par exemple à Washington, 350 000 personnes ont manifesté samedi, et on peut multiplier les exemples. Malheureusement, en France, on se rend compte que les manifestations sont souvent plus limitées. Je suis inquiet des raisons qui conduisent à ce constat, mais effectivement, faut bien le constater. Autre élément par rapport à cette situation au Proche-Orient. Il faut, je pense, toujours se souvenir des propos de Biden, qu'avait tenu Joe Biden il y a déjà très longtemps, je crois que c'était en 86, mais ils ont été repris mot pour mot par Robert Kennedy Jr. Il y a seulement quelques semaines. Et donc Joe Biden expliquait que la création de l'État d'Israël était, pour les Américains, le meilleur investissement qui ait jamais été fait pour défendre leurs intérêts dans cette région du monde. On voit que là, on n'est pas du tout sur des questions de religion, de peuple. Il s'agit bien d'autre chose. Il s'agit du business international, de l'impérialisme américain. Et pousser les Israéliens à avoir ces comportements dans cette région du monde, bon, ben là, on rentre dans cette espèce de communication horrible dont on a vu les effets qu'elle produisait dans de nombreuses régions du monde. C'est tout à fait inquiétant. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'on assiste également en ce moment à un développement extrêmement important de forces militaires dans de différentes régions. Il y a, je crois actuellement, il y a deux, trois conflits dont on parle beaucoup, l'Ukraine, la Palestine. Mais je crois qu'il y a actuellement 55 conflits à travers le monde, donc beaucoup dont on ne parle jamais. Et par rapport au développement de cette situation donc au Proche et Moyen-Orient, les Américains ont considérablement renforcé, avec les Anglais d'ailleurs, leur dispositif militaire, notamment en mer Rouge. J'ai regardé, là, peu avant cette chronique, des vidéos montrant l'armada aérienne que les Américains ont envoyée en mer Rouge. Il suffit de regarder les images pour être totalement terrifié. Ce sont les armes les plus avancées, les avions de chasse des derniers modèles, les bombardiers géants qui sont maintenant en mer Rouge. C'est donc ce qu'on peut appeler un déploiement d'armes. Et on sait que quand il y a une telle concentration d'armes, à un moment donné, elles finissent toujours par être utilisées. D'ailleurs, elles l'ont déjà été, puisque les Américains et les Anglais ont procédé à des opérations militaires dans cette région, donc ces derniers jours. C'est extrêmement inquiétant. Et c'est vrai qu'on n'a jamais été, depuis des dizaines d'années, dans une situation où un tel risque de déflagration mondiale peut survenir. Ça peut arriver à tout moment. Voilà. Donc ça, c'était sur la question donc de ce qui se passe actuellement en Palestine. Sur la question donc liée aux manifestations de dimanche, qui ont été également nombreuses dans le pays pour exiger le retrait de la loi immigration, je voudrais vous faire part un petit peu de ce qui a pu être dit lors de ce rassemblement de samedi matin. Alors, voilà. Donc, pour la libre pensée, cette loi, donc la Fédération exige le retrait de la loi immigration, c'est une loi raciste, réactionnaire, xénophobe d'extrême droite. Elle vise à surexploiter les travailleurs immigrés en les précarisant à outrance pour les intérêts donc du système en place. C'est pourquoi la droite, le centre, l'extrême droite, les macronistes ont soutenu et voté cette loi infâme, car ils sont donc les domestiques du capitalisme financier, de ce système horrible qui actuellement domine tout. La loi Darmanin, la loi immigration, est raciste et xénophobe car elle présente les travailleurs immigrés comme étant responsables de tous les maux de la société, que les mêmes domestiques du capital dirigent et engendrent. Ce sont eux les responsables des violences, de la misère, de la guerre et de l'exploitation. Cette loi est raciste et ordurière, c'est une infamie qu'il faut mettre à sa juste place dans les poubelles de l'histoire. La seule censure qui vaille, et donc ça fait bien évidemment référence aux travaux du Conseil constitutionnel dans quelques jours. La seule censure qui vaille, c'est la seule non-promulgation qui vaille, c'est le retrait pur et simple de cette loi infâme. On ne censure pas une loi pour l'améliorer, pour pouvoir mieux la vendre. On ne censure pas partiellement une loi raciste et réactionnaire pour mieux garder son axe essentiel, la haine des étrangers, ce qui est effectivement la marque de cette loi. On ne demande pas la non-promulgation d'une loi infâme. La seule solution démocratique, sociale et égalitaire dans les pays des droits de l'homme, c'est le retrait immédiat de cette loi. Les travailleurs immigrés sont partie intégrante et intégrale de la classe ouvrière. Les frapper et les réprimer, c'est frapper et réprimer tous les travailleurs. La Fédération nationale Libre Pensée condamne les violences policières d'État contre toutes celles et tous ceux qui refusent ce régime d'oppression, de répression et de réaction sur toute la ligne. Voilà. Et donc j'en arrête là pour ce communiqué que vous retrouverez bien évidemment sur les différents médias de la Fédération nationale de libre-pensée, fndlp.fr pour ce qui est du site de la libre-pensée au plan national, et pour le groupe Fretzeler, lpdordogne.fr. Et inscrivez-vous, hein, vous en avez la possibilité sur ces sites pour recevoir nos lettres d'information qui donnent régulièrement un certain nombre donc, d'informations, puisque c'est ça l'objet. Je voudrais maintenant revenir sur un autre aspect qui a fait un peu la une de l'actualité ces derniers jours. C'est la question de l'association Anticor, qui est l'objet de décisions qui sont extrêmement intéressantes, de décisions d'une cour d'appel. Donc il y a un appel de 176 personnalités en soutien à l'association Anticor, que je porte à votre connaissance. Et le titre de cet appel, c'est « La décision de la Cour d'appel porte atteinte à notre démocratie ». Sur décision de la Cour administrative d'appel, l'association Anticor a perdu l'agrément qui lui permet d'agir efficacement en justice contre les affaires de corruption des élus. L'association avait anticipé cette annulation en déposant une autre demande qui a été rejetée par le précédent gouvernement sans aucune explication fin décembre. Cette décision porte atteinte au bon fonctionnement de notre démocratie. Nous nous indignons du sort réservé à cette association et du message envoyé à l'ensemble des contre-pouvoirs. Cette association mène depuis plus de 20 ans un travail essentiel et porte, grâce à un bureau et des référents bénévoles, ainsi que par la mobilisation de ses adhérents, des affaires importantes devant les tribunaux au nom de l'intérêt commun. Parmi ces affaires, il y a entre autres les conditions de l'attribution de la Coupe du monde de football au Qatar, les contrats de concession autoroutière de 2015, la cession de la branche énergie d'Alstom ou encore les soupçons de prise illégale d'intérêt du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Aujourd'hui, Anticor est affaibli. L'association ne peut plus s'opposer au classement sans suite d'une affaire politico-financière. Cela signifie qu'Anticor ne pourra plus s'assurer que les responsables publics, même les plus puissants, rendent compte à la justice et à travers elle aux citoyens dans des affaires qui coûtent cher à l'ensemble de la société. Nous devons nous battre pour qu'elle récupère ce pouvoir. La corruption nous coûte cher et nous devons la combattre. Rappelons qu'en France, le coût de la corruption est évalué à près de 120 milliards par an. Cette dernière nous prive, toutes et tous, quels que soient nos bords politiques, de fonds pour le bon fonctionnement de nos services publics, pour soutenir les plus précaires ou pour investir dans la transition écologique et l'adaptation face au changement climatique. Qu'une association qui lutte contre la corruption soit sous le feu des projecteurs nous paraît normal. Qu'on lui demande l'exemplarité aussi. Mais rappelons les conditions de l'exercice de ses missions. Ses membres mènent bénévolement des enquêtes de terrain, ouvrent la voie à des lanceurs d'alerte et subissent des pressions. Anticor ne perçoit aucune subvention publique et aucun don d'entreprise. C'est une association citoyenne qui fait un travail important pour rendre transparent la provenance de ses moyens financiers et assurer qu'aucun donateur n'exige de contrepartie à son soutien. À partir du moment où elle mène honnêtement son combat, l'association ne mérite pas d'être privée de sa capacité d'agir en justice. Le contre-pouvoir ne doit plus dépendre du pouvoir. Nous demandons donc au nouveau gouvernement de bien vouloir rendre son agrément à l'association, c'est en son pouvoir. Nous demandons aussi à nos députés de modifier le fonctionnement actuel de l'agrément qui nous paraît contraire aux intérêts de notre démocratie, que ce soit le garde des Sceaux ou des membres du pouvoir exécutif qui accordent à Anticor son agrément, sa capacité à saisir la justice, nous semble présenter un risque évident de conflit d'intérêts. Nous estimons que c'est une autorité indépendante où le défenseur des droits qui devrait donner aux associations qui le réclament le précieux sésame qui leur permet de jouer pleinement leur rôle de contre-pouvoir. En un mot, nous ne pouvons pas considérer normal que nos contre-pouvoirs dépendent de la volonté du pouvoir. Donc fin du texte de cet appel de 176 personnalités et suit bien évidemment la liste de ces 176 personnalités. Là encore, ces documents, vous pouvez retrouver sur nos différents médias. Je vous propose donc maintenant d'en venir au choix musical que je vous propose pour aujourd'hui et qui est bien évidemment en relation avec la bataille menée pour le retrait de la loi Asile-Immigration. Je vous propose d'écouter Maxime Le Forestier, « Être né quelque part ».
Sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. C'est cool.
choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
Voilà, donc nous nous retrouvons pour la conclusion de cette chronique. Je voudrais quand même citer, vous l'avez peut-être entendu dans les différents bulletins d'information ou chroniques sur les différentes radios ce matin, c'est l'histoire de M. Raymond. M. Raymond qui est mort dans la rue, qui vivait dans un taudis souterrain, qu'il louait à un député Les Républicains, le député du Val-de-Marne Michel Herbillon, qui était donc propriétaire d'un box de parking insalubre et sans fenêtre, dans lequel ce monsieur Raymond, qui était un jardinier, qui se faisait payer en espèces pour pouvoir payer son loyer, dont on voit le code de légalité que ça représente, donc dans lequel vivait ce pauvre monsieur, qui est donc décédé dans le plus grand dénuement à 76 ans. Et donc Mediapart a sorti tout un article sur ce sujet que je vous invite à lire. Vous pouvez le retrouver bien évidemment sur le site de Mediapart. Et alors, Mediapart a cherché à joindre donc le député Les Républicains Michel Herbillon, et il a refusé de répondre aux questions. Voilà. Alors il faut quand même savoir que ce monsieur, et on voit un peu là où sont les jésuites, il a lui-même proposé une loi pour résoudre les problèmes de logement et de sans-abri, et alors que lui-même donc louait dans les conditions que je viens d'indiquer un box de parking insalubre. Voilà. Donc, et le journal précise que le député ne s'est même pas déplacé pour les obsèques de ce pauvre monsieur. Voilà. Donc, nous reviendrons peut-être sur ce fait la semaine prochaine. On verra l'actualité qui va intervenir dans les prochains jours et risque d'être très, très riche. Et je vous propose maintenant de découvrir le jingle de fin, le nouveau jingle de fin de notre chronique et de nous retrouver pour une nouvelle chronique en direct lundi prochain. À la semaine prochaine.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de La Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord, et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller lpdordogne.fr toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30.
Elle tient ton glaive.